36 sur France Culture. Et voici la revue de presse internationale de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
À la une ce matin, la crainte d'un massacre à grande échelle au Darfour.
La ville d'El Fasher, dans l'ouest du Soudan, où des centaines de milliers de personnes souffrent déjà de la faim et des bombardements, craint le pire, titre le New York Times. Après une réunion d'urgence hier du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation sur place, car cette ville d'El Fasher est désormais assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Il voudrait faire sauter ce verrou pour la domination de la région tentaculaire du Darfour, ce qui fait craindre des massacres en cas de prise de la ville, précise le New York Times et le Financial Times. Le quotidien britannique raconte que des dépliants sont actuellement distribués dans El Fasher pour décrire comment préparer un corps pour les enterrements. La mort est devenue normale, selon un Soudanais de 37 ans, interrogé par le Financial Times. Il travaillait au ministère des Finances avant que la guerre ne bouleverse sa vie, il y a un an. La rivalité entre deux généraux, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emeti. Ils ont plongé tout un pays dans l'enfer. 48 millions de Soudanais confrontés au combat, à la famine, aux violences sexuelles et ethniques, rappelle Voice of America, la radio internationale des États-Unis. Nous en avions déjà parlé ici même le mois dernier.
Et à El Fasher, pas d'électricité ni eau courante.
Les habitants dépendent en effet en grande partie des approvisionnements qui arrivent à Dodane, raconte le New York Times. Les pénuries ont fait doubler le prix de la viande et du sucre, alors pour tenter de trouver à manger, les habitants déambulent dans les rues et les bazars la journée avant le couvre-feu nocturne. Les habitants d'El Fasher sont pour la plupart issus de communautés déjà ciblées lors du précédent conflit au Darfour, avec 300 000 personnes tuées il y a une vingtaine d'années par la milice Janjaweed, qui était l'ancêtre des paramilitaires des forces de soutien rapide, décrypte le Financial Times, ces forces de soutien rapide à majorité arabe. El Fasher comptait 500 000 personnes avant la guerre. Elle abrite peut-être désormais 1 million d'habitants, selon Middle East Eye, et au moins 43 personnes ont été tuées ces dernières semaines dans la ville, notamment des femmes et des enfants, relève le New York Times et le journal canadien Globe and Mail, qui craignent donc, comme les Soudanais, que ce ne soit qu'un avant-goût des violences à venir. The Sudan Tribune redoute même un génocide à El Fasher, au Darfour. La guerre au Soudan a fait au total 8 millions de déplacés, soit un habitant sur 6, souligne le New York Times. 2 millions de personnes ont également fui vers le Tchad et l'Égypte voisin. 18 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë. C'est la pire crise alimentaire au monde, selon l'ONU. Les enfants au Darfour, entre la famine et la mort, titre la BBC, qui met en avant une femme aux yeux tristes et à la voix calme, ou plutôt épuisée, alors qu'elle récupère sa ration alimentaire dans un camp de réfugiés. Son petit sac n'a pas à être aussi rempli qu'auparavant, se désole la BBC. Trois de ses enfants sont morts de faim et de maladie ces derniers mois. L'aîné avait 3 ans, un autre 2 ans, le dernier était un bébé de 6 mois seulement. Médecins sans frontières, l'une des dernières agences humanitaires internationales encore présentes au Darfour, explique que dans le camp de déplacés de Zamzam au Darfour Nord, faute de nourriture, d'eau potable et de soins médicaux, au moins un enfant du camp meurt toutes les 2 heures. L'ONU et les ONG demandent un cessez-le-feu humanitaire et davantage d'aide internationale.
Et puis, gros plan à présent sur un document hautement confidentiel que la BBC s'est procuré pour connaître les dernières heures d'une adolescente iranienne de 16 ans.
Son nom, Nika Shakarami. Une adolescente, effectivement, aux cheveux mi-longs, regard dessiné au col, look un peu rock avec des mitaines en résille. Elle avait brûlé un hijab lors d'une manifestation à Téhéran le 20 septembre 2022. Elle avait même été filmée en train de le faire, debout sur une benne à ordures, quelques jours après la mort de Mahsa Amini. C'était l'un des derniers gestes de l'adolescente iranienne, explique l'enquête de BBCI. Nika, peut-être un an avant le mouvement pour Mahsa, pensait déjà souvent aux injustices que le gouvernement nous fait subir. Et elle était très courageuse, elle n'avait peur de rien. J'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose, confie sa mère Nasrin Shakarami. Crainte justifiée, souligne la BBC. Car après cette manifestation contre le régime iranien en septembre 2022, Nika Shakarami disparaît. 9 jours plus tard, sa mère la retrouve à la morgue. Le visage tuméfié, les os de ses joues étaient brisés, ses dents arrachées, l'arrière de sa tête avait été frappé si durement qu'il était comme enfoncé. Selon le rapport confidentiel que la BBC a obtenu, et mis des mois d'ailleurs à vérifier, rapport établi par le corps des gardiens de la révolution islamique, dont certains membres traquaient l'adolescente iranienne, elle était soupçonnée d'être l'une des meneuses des manifestations, d'après les appels repérés via son téléphone portable. Nika Shakarami avait échappé une première fois aux gardiens de la révolution, avant d'être arrêtée, embarquée dans un fourgon frigorifique banalisé, menottée, des chaussettes dans la bouche pour empêcher l'adolescente de parler. Nika Shakarami, 16 ans, je le rappelle, a subi une agression sexuelle de la part d'un homme qui s'était assis sur elle pour la maîtriser, selon le rapport obtenu par BBCI. Nika Shakarami a malgré tout réussi à se débattre, mais elle a ensuite été frappée à mort, son corps jeté près d'une autoroute, crime impunie, souligne la BBC. Le régime prétend qu'elle s'est suicidée en sautant d'un immeuble. Malgré cela, ou peut-être à cause aussi de cette répression sanglante, souligne le Washington Post. Et même si l'attention mondiale se concentre sur la guerre à Gaza, des femmes résistent encore à la police des mœurs à Téhéran, ainsi que dans tout l'Iran. Dans le cadre de l'opération Nour, comme le rapportent des médias locaux iraniens, Nour, c'est lumière en persan, explique la radio américaine Voice of America. Certains Iraniens soupçonnent, selon le Washington Post, le régime d'utiliser la guerre à Gaza et les craintes d'une guerre régionale comme couverture pour resserrer leur emprise sur le pays.